Les Nuits de France Culture. Après Geoffroy et Angèle en 1934, c'était à nouveau du côté de Jean Giono que Marcel Pagnol allait chercher la matière première d'un nouveau scénario en 1937 en adaptant Regain, publié 7 ans auparavant. Pour Regain, ce fut sur les hauteurs d'Aubagne, dans les décors du village de cinéma reconstitué pour les besoins de ses films, que Pagnol donna vie à Aubignane, le village imaginaire du roman de Giono. Avec pour interprètes Fernandel, Aurane de Mazis, Marguerite Moreno, Gabriel Gabriot, Delmont, Henri Poupon et Blavette, ce film est l'un des plus célèbres et des plus célébrés de Pagnol et l'illustration de ce qu'était alors la liberté de Pagnol, producteur de ses films, qui, dans ses propres studios, tourna simultanément Le Schpoutz et Regain. À quoi tient la beauté de Regain ? L'émission qui va suivre le dira à ceux qui n'ont pas vu ce film ou qui l'ont vu il y a trop longtemps. C'était dans un numéro du Cinéma des cinéastes pour lequel Claude Jean-Philippe avait convié Caroline Champetier à voir Regain sur un magnétoscope dans le but de démontrer tout l'intérêt qu'il pouvait y avoir à regarder un film sur cassette. Une démonstration certes probante, mais dont on retiendra, davantage que les vertus du magnétoscope VHS, l'enthousiasme fondé et contagieux de Caroline Champetier pour le cinéaste Pagnol. Écoutons Claude Jean-Philippe et Caroline Champetier le 4 novembre 1979 sur France Culture.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Encore une fois, beaucoup de films à Paris, beaucoup de films à voir au cinéma, et c'est une habitude qu'il ne faut pas perdre, bien sûr, mais il se trouve que beaucoup d'entre nous, ceux qui ont les moyens, soit d'acheter, soit de louer un magnétoscope, ont pris d'autres habitudes. Et je fais partie des derniers acheteurs, enfin des derniers loueurs, en tout cas, de magnétoscope. Et j'avais très envie de regarder un film au magnétoscope en compagnie de Caroline, par exemple. Ça aurait pu être toi, Pierre, si tu t'étais trouvé là. Et de voir l'effet que ça produit sur nous, bien sûr, mais sur notre commentaire. Parce que je reçois des lettres, souvent, qui très amicales, la plupart du temps. Enfin, je dois avouer, je dois remercier ici ceux qui nous envoient des lettres d'encouragement, parce que elles me touchent beaucoup et elles nous touchent beaucoup. Je vous les lirai, Caroline et Pierre, dès que nous les aurons à ce micro. Mais le reproche, quand même, est celui de l'imprécision, toujours. Hein. C'est toujours très difficile de parler du cinéma, tout simplement parce qu'il y a entre les deux langages, celui du film et celui de notre langage, la façon dont nous en parlons, toujours un hiatus, et puis cette maladie qui nous a peut-être été communiquée par notre éducation, qui est de passer tout de suite au général, et de généraliser, de résumer, soit une pensée, soit un récit, de telle sorte que nous sommes souvent vagues, y compris au cinéma des cinéastes. Bon. Alors, j'ai voulu faire cette expérience avec Caroline, de lui montrer Regain, c'était hier matin, et d'enregistrer aussitôt sa réaction devant le film, mais aussi sa réaction devant ses réactions, et mes réactions bien sûr, devant un certain nombre de séquences du film.
Alors, que, donc, que vous avez repassé, donc
Oui, on a pu les repasser, et même en voyant le film, que Caroline voyait quelque chose qui l'intéressait, et je pouvais lui repasser immédiatement le mot de dialogue qu'elle n'avait pas saisi, ou un geste. C'est tout l'intérêt de cette lecture, parce qu'il s'agit vraiment d'une lecture. Alors, il faut se reporter à hier matin pour cet enregistrement un peu insolite du cinéma des cinéastes, dans mon appartement, bien sûr, puisque c'est là que se trouve la télévision et le magnétoscope.
Bon, ce matin, nous avons vu Regain. C'est un film que vous aviez vu depuis longtemps, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps.
J'avais vu il y a très très longtemps. J'en avais un souvenir très 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 vague.
Mais est-ce qu'on n'a pas des souvenirs très vagues, même des films qu'on a vus la semaine dernière?
Au cinéma?
Oui.
Ça voudrait dire que le magnétoscope, la télévision, rapprocherait?
Non, le magnétoscope, avec la faculté qu'on a de revenir sans cesse, éventuellement sur un geste, sur un fragment, fait qu'on a quand même une vision. Parce que le personnage de Gédémus, par exemple, le personnage de Fernandel dans Regain, quel souvenir en aviez-vous?
Eh bien, curieusement, moi qui n'aime pas beaucoup Fernandel, parce que je ne comprends pas très bien le rôle dont il s'est affublé à travers principalement les films de Pagnol, je ne me souvenais pas que c'était si violemment que ça que c'était Fernandel. C'est donc que le mythe Fernandel avait échappé à ce personnage. Et je me souvenais de ce personnage en ayant oublié Fernandel.
Oui, mais moi j'avais...
Ce qui est positif en ce qui me concerne, parce que n'aimant pas Fernandel, j'avais donc compris le personnage. Il le dit lui-même, qui est l'innocent, qui est la liberté, qui est celui qui laisse échapper, qui, quand il a quelque chose, le tyrannise, puisque finalement, avec cette femme, il n'est pas capable de la garder pour la bonne raison qu'il la tyrannise.
Oui, alors il faut raconter, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, le Seigneur de Regain, qui est très simple, c'est une adaptation de Giono, mais je pense très libre, parce que chaque fois que Pagnol prenait quelque chose, il finissait par la faire sienne. Bon, il s'agit d'un village abandonné, Aubignan. Il s'agit d'un personnage principalement, Panturle, qui habite ce village abandonné, qui est une sorte d'homme des bois, et qui reçoit comme mission de le faire revivre. Il le reçoit de Mamèche, qui est une vieille femme, la dernière vieille femme du village, et passe non loin du village un rémouleur. Et ce rémouleur va prendre femme.
Nous ne sommes plus hier matin, nous sommes à nouveau au studio. Vous vous en rendez bien compte à la différence des sons. Simplement pour vous dire que c'est à ce moment précis que nous allons mettre le magnétoscope en marche sur une scène que nous n'avons pas résumée hier matin, que je vous résume donc. Enfin, je vous résume ce qui la précède. Le rémouleur, qui est incarné par Fernandel, arrive dans un village, il rencontre le garde champêtre qui lui raconte l'histoire d'une petite théâtreuse venue de je ne sais où avec une troupe manifestement assez navrante de théâtre ambulant. Et c'est alors qu'intervient un personnage qui s'appelle Martine, qui intervient alors cinématographiquement entre le rémouleur et le garde champêtre pour annoncer ce qui est arrivé dans la nuit, à la pauvre théâtreuse qui est incarnée par Orane de Mazy.
Les charbonniers, ils l'ont invité à manger avec eux.
Ah, c'est des bons garçons.
Oui, et puis alors, quand ils ont dîné, ils l'ont fait rentrer dans l'écurie de l'auberge.
Aïe, aïe, aïe.
Il y en a même un qui s'est enfermé dedans avec elle.
Aïe, aïe, aïe.
Et puis alors, quand celui-là il est sorti, il y en a un autre qui est rentré.
Aïe, aïe, aïe.
Et puis?
Et puis un autre, ils sont 15.
Aïe, 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 aïe.
Non, mais enfin, l'effet de la cause.
On va nous crier au secours, comme si on l'a tué.
Et alors?
Alors, il faut pas qu'on la tue.
Est-ce qu'ils sont fortement armés?
Oh, c'est pas des assassins. Mais en tout cas, ils lui font des misères, hein.
Ils lui font un genre de misère bien connu et qui fait pas du mal à tout le monde. Alors, vous allez laisser violenter cette pauvre fille?
Violenter, va. Pour tuer une femme, il en faut un peu plus que ça, va.
Non, moi je suis garde champêtre, je peux pas intervenir.
Oui, ce n'est pas suffisamment champêtre.
Voilà. Eh bien, moi, j'y vais. Un mauvais coup est vite attrapé.
Mais une bonne action est bien vite faite. Tu viens?
Non.
Alors garde-moi la baraque. Allez, viens, Martine.
Des fois qu'il ferait quelque chose d'illégal.
C'est là?
C'est là.
Préparons-nous, vous autres. C'est vous les charbonniers français? Il faut que vous ayez bien sale gueule. Faut pas trouver de femmes et faire violence à de pauvres filles.
Qu'est-ce qui te parle, toi?
C'est moi qui te parle. C'est moi qui te parle. Oui, oui. C'est moi qui te parle, t'as compris? Et je peux te répondre sans te parler, même, t'as compris?
Hé! Hey, vous entendez? C'est l'appel au secours!
Oh là là! Hé, Saïdo! Sors un peu de là que je te salue comme un cochon que tu es, viens! Quoi? Oh. Mani! Sors tout de suite! Charbonnier! Enfant de garce, faux nègre! T'es, voilà le premier avertissement, hein!
Qu'est-ce que c'est?
Sors vite, Bernard, Torca! Sors vite! Sans quoi on te coupe la tête avant de te mettre en prison!
Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a?
Il y a des cochons de charbonniers qui font du mal à une pauvre fille! T'as compris?
Sortez, ma belle! Sortez, venez! Il y a quelqu'un pour vous défendre! Un homme! Un vrai!
N'importe quel metteur en scène de formation, aurait dit, mais enfin, il faut montrer les charbonniers en train de s'emparer de la jeune femme, il ne faut pas faire raconter ça par le garde champêtre. Or, Pagnol sait bien, parce qu'il est auteur, que c'est peut-être plus fort, plus riche, de faire raconter en plein fixe par la dame qui arrive, par Martine, qui s'appelle Martine, maintenant on connaît tous les noms des personnages, par la femme qui arrive, de faire raconter le viol.
Il y a quelque chose de très étonnant, c'est-à-dire il y a ce plan fixe de 2 minutes, qui est l'apparition de Fernandelle, qui lui explique qu'il est rémouleur. Tout ce plan se constitue autour de ce qu'il appelle sa baraque, et qui en fait n'est pas du tout une baraque, puisque ça n'a évidemment pas de toit, mais lui c'est sa maison, sa carapace de tortue, puisque ça, c'est sa rémouleuse, je ne sais pas, on dit ça une rémouleuse. Et donc les comédiens sont de part et d'autre, le garde champêtre, Fernandelle sont de part et d'autre de la baraque. Ils se parlent, et là, il y a largement un plan fixe de 2 minutes qui sont présentation des deux personnages, c'est-à-dire Fernandelle, le rémouleur, et puis le garde champêtre, qui n'a d'ailleurs pas un rôle très important par la suite. Puis il y a un gros plan de Fernandelle, à un moment donné, qui explique qu'il est maintenant il est seul, et c'est ce qui m'a fait comprendre par la suite, d'ailleurs, le rapport qu'il va avoir avec la femme. Il vient de perdre son chien, il est seul, pour traîner la baraque, et il a une énorme ampoule, soi-disant, sur l'épaule. Et il dit, mon chien, il va falloir que je m'en rachète un autre, ou que je m'en trouve un autre. Le rôle, ou comment dire, je ne sais plus parler français en face de Pagnol, c'est incroyable. Ce qui va faire vivre à cette femme, ça sera rien d'autre, effectivement, qu'une vie de chien. Absolument.
Très exactement.
Une vie de chien. C'est d'ailleurs exactement. Pour ça qu'elle va le foutre, qu'elle va le quitter pour l'autre.
Donc, attendez. Je veux dire que c'est là que nous avons commencé. C'est-à-dire que nous avons montré tout à l'heure un bout du film, et c'est au moment où arrive Martine qui annonce que la petite théâtreuse est violée par les charbonniers. Mais là encore...
Oui, c'est-à-dire, plan fixe de 2 minutes. Gros plan assez rapide de Fernandelle sur la solitude, mon chien, etc. Et puis, de nouveau plan large, on dirait Hitchcock. Hein, là, c'est sérieusement. Il est en plan large quand il faudrait être en plan serré, et l'inverse. Hein. C'est très, très surprenant que Pagnol, qui est un écrivain, arrive à jouer tellement avec le cinéma. Il claque plan large, où on voit Martine arriver, mais où Martine arrive, une espèce de surgissement du centre de l'image, on ne l'a pas vu venir. Vous êtes d'accord?
Absolument, oui.
C'est-à-dire, elle surgit comme ça tout d'un coup, venez vite, et elle va commencer à raconter. Il va de nouveau y avoir un plan fixe, bon, entrecoupé d'ailleurs de plans serrés où on va les voir chacun écouter, mais il va de nouveau y avoir un plan fixe assez long où elle va raconter ce qui se passe, en ayant dit venez vite, juste après son surgissement dans l'image, qui est quelque chose de cinématographiquement assez violent.
Oui, oui, il y a le fait que Pagnol fait raconter par des personnages et ne montre pas. Et ça, je m'en suis rendu compte en me repassant African Queen au magnétoscope l'autre jour, c'est que les vrais auteurs de films, c'est-à-dire ceux qui ont la maîtrise de leur sujet, même quand ils n'écrivent pas eux-mêmes, quand ils ont la maîtrise de leur sujet et de leur personnage, sont ceux qui ont le moins peur de rester sur leur personnage et de rester sur le dialogue. Dans African Queen, ça a beau se passer en Afrique, avec des crocodiles, des éléphants, la jungle et le fleuve, eh bien, Huston les montre, quand on regarde le film attentivement au magnétoscope, encore une fois, Huston les montre relativement peu. Pourquoi ? Parce que ce qui est important, ça n'est pas le paysage, ça n'est pas d'y entrer et de s'y promener comme la tentation vient dès qu'on est en Afrique, mais c'est le retentissement immédiat sur le personnage. C'est pour ça qu'une des choses les plus drôles de African Queen, c'est quand Bogart se met à imiter les crocodiles et les éléphants qui sont sur la berge. Donc c'est, ce qui est intéressant, c'est la relation entre le personnage et son décor. Et alors dans Regain, puisque dans
une
tout autre film...
Une raison pour faire vite, c'est que Regain était tourné entièrement en extérieur, Pagnol tournait toujours en extérieur, et que African Queen, chose tout à fait nouvelle à Hollywood, a été tourné entièrement en extérieur.
Et étrangement, ni l'un ni l'autre en ont profité pour faire un documentaire à l'intérieur du film sur cette nature absolument magnifique qui est celle de Regain, et sur cette autre nature tout à fait splendide qui est celle de African Queen. Parce qu'ils sont auteurs...
Le film ne capitalise pas, c'est une idée assez belle que vous venez d'avoir là. Il ne profite pas.
Mais ce n'est pas une idée, c'est le magnétoscope très précisément qui m'y a conduit.
Il y a des idées.
Non, mais par exemple, il y a une chose que j'aurais complètement oubliée si je n'avais pas eu le magnétoscope, c'est que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce qu'il y a un moment où Fernandel décide d'agir. C'est dans la séquence que nous venons d'entendre. Où il dit que... il engueule le quart champêtre et lui dit « il faut faire quelque chose ». Il prend son couteau et il va libérer la théâtreuse qui est dans sa grange en train de se faire violer copieusement
par
15 charbonniers.
Charbonniers, qui sont des faux nègres.
Mais bon, alors, ce qui est étonnant, c'est que Pagnol montre Fernandel... Ça, on n'a pas pu le voir, donc je suis obligé de l'expliquer à la radio. Mais si je pouvais faire la démonstration à la télévision, ça serait évident. On voit Fernandel avec son couteau à la porte de la grange. On l'entend. La tentation immédiate et évidente, c'est de faire un plan à l'intérieur de la grange avec Oran de Mazy et son charbonnier penché sur elle et leur surprise. Ce plan-là, il ne le fait pas parce qu'il n'en a pas besoin. Un spectateur normal ne s'en rend absolument pas compte. Si on demandait aux gens qui ont vu Regain...
Ah oui, mais Claude, ça me paraît évident qu'il ne peut pas montrer ça, pour la bonne raison que Oran de Mazy, qui va être, dans la suite du film, le personnage, enfin le grain de blé, on comprendra pourquoi, celle d'où surgira la vie. Je comprends pourquoi d'ailleurs la vieille, au départ, s'en prenait tellement à la vierge. C'est parce que justement, Oran de Mazy n'est pas une vierge, c'est une femme. Et c'est elle qui va refaire vivre le village en acceptant d'aller vivre là-haut avec Penturle. Donc c'est important, souvenez-vous de la scène de ménage entre la vieille et la vierge. Hein? Qu'est-ce qui va se passer après cette scène de ménage? Ça sera ni la vieille, ni une femme qui surgira. Ce côté incroyablement vivant, croyant pourquoi pas, mais en même temps absolument athée tellement il est vivant de Pagnol. Bon, qui fera surgir cette putain parce que c'est rien d'autre qu'une putain. Vous êtes d'accord, le personnage de
enfin, c'est une putain victime, enfin
oui,
c'est pas...
Oui, oui, bien victime, absolument. Oui. Ceci dit, pour en revenir à la scène précisément, c'est une grande... On voit la porte de la grange, elle est absolument noire parce qu'elle n'est pas éclairée à l'intérieur. Ce sont des charbonniers, n'oubliez pas, ces hommes-là. Ils se font traiter de faux nègres par Fernandel. Et donc, la première fois qu'on verra Oran de Mazy, celle qui va faire revivre, bon, celle d'où vient le nom du film, hein, Regain. Elle viendra du noir. Bon, elle a été violée par 15 charbonniers, le noir, et elle va venir du noir. C'est évident qu'il ne pouvait pas faire un film où il allait montrer, où il allait éclairer quelque chose qui est dans le noir. Parce qu'en plus, la vie d'Oran de Mazy, jusqu'à cette période où elle va rencontrer son homme, elle dira après mon homme...
Qui n'est pas Fernandel, disons-le tout de suite.
Absolument,
parce qu'on va le voir
je
après.
Me languis de lui, ça aura été d'une certaine manière un couloir. Quelque chose de tout noir. Donc ça m'apparaît clair, évident. Il n'y a pas de symbolique chez Pagnol. Mais en même temps, il montre quand même des choses précises. Il est matérialiste. Quand il montre un de ses personnages les plus lâches, parce que Fernandel dans ce film, c'est quand même autre chose que Jean Rochefort dans le film de Yves Robert.
C'est-à-dire
de la lâcheté. Non, mais c'est sublime. Sur la lâcheté, c'est sublime. Je suis sûre que Yves Robert a revu ce film. C'est impossible autrement. C'est vraiment, vraiment...
Non, je pense pas qu'il l'ait revu, parce que le film, ça m'étonnerait qu'il l'ait revu, mais enfin bon, Puisque vous parlez de la lâcheté de Rochefort, il faut reconnaître que vous le reconnaissiez d'ailleurs vous-même tout à l'heure, que Rochefort est tout à fait extraordinaire.
Ah, Rochefort est sublime. Oui. Le comédien est sublime. Le personnage est dégoûtant. Le personnage n'a pas de consistance. Là, ce personnage, dans sa lâcheté, il est immense. Et Pagnol le représente sans arrêt avec des couteaux qui doivent faire au moins, à mon avis, au moins 40 cm. Vous êtes d'accord? Des couteaux absolument énormes. Deux, d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose là, de nouveau, Pagnol, il montre. Quand il montrera le blé, il montrera le blé. Et là, la lâcheté, il la montre parce qu'il affuble, Fernandel de ses deux grands couteaux. Et c'est quelque chose de très...
Mais alors là, justement, c'est là. Alors, puisque notre sujet d'aujourd'hui, c'est pas Pagnol, mais le magnétoscope, c'est fantastique à quel point le fait de l'avoir, le fait de pouvoir le revoir, c'est-à-dire qu'on pourrait maintenant se le repasser, on trouverait encore autre chose à dire. Effectivement, j'avais pensé à propos de le fait qu'on ne voit pas le plan dans la grange, je m'étais dit, Pagnol n'en a pas besoin parce que il est plus intéressant pour lui de rester sur Fernandel à ce moment-là que de voir Oram de Mazy. J'avais pas pensé à Oram de Mazy, moi j'avais pensé au viol, j'avais pensé à Il se trouve que d'une part, il n'en a pas besoin, et que d'autre part, vous avez raison, il faut l'avoir dans la lumière. Hein. Et d'ailleurs, son apparition dans la lumière est très belle. Il suffit.
Elle se cache derrière ses mains, elle a la tête pleine de foin, et on ne verra vraiment son visage que plus tard dans le film.
C'est ça. Alors d'ailleurs, on va y passer, si vous voulez bien. On va se passer à nouveau une séquence que vous avez choisie, vous.
Oui, ce qui m'a intéressé comme ça dans le film, les moments les plus émouvants sont les trois scènes d'amour. Encore une fois, c'est dommage de ramener Pagnol au symbolique, mais qui sont trois scènes avec la scène d'amour originelle, à mon avis, Adam et Ève, quand ils sont tous les deux près du ruisseau. Une deuxième, la première fois qu'ils ont de l'argent, la première fois qu'il y a une fonction sociale de l'amour et de deux personnes ensemble autour de quelque chose qu'ils ont fait, c'est-à-dire le blé qu'ils l'ont vendu et qu'ils ont gagné de l'argent. Et puis la dernière scène d'amour qui est la fin du film, quand il apprend qu'elle attend un enfant.
Bien, alors l'amour dont il s'agit, c'est bien entendu pas celui de Oram de Mazy et de Fernandel, c'est pas celui de Duré Mouleur et d'Oram de Mazy, c'est celui d'Oram de Mazy et de Gabrielle Gabriot, à savoir la petite théâtreuse qui a été prise en charge d'abord par Gabrielle Gabriot, et c'est leur première scène d'amour après
elle
que...
Elle n'a pas été prise en charge, Claude. Elle a été prise en charge par Fernandel, qui d'une certaine manière... Comme c'est une chienne, il y a quelque chose d'un peu renouardien là. C'est vrai que c'est une chienne, c'est vrai.
Il
la traite comme une chienne, mais c'est vrai que c'est une chienne. Donc oui. Lui, il avait besoin d'un chien, ça se trouve. Sauf qu'une chienne, c'est pas un chien d'ailleurs. Elle n'est pas prise en charge par Gabrielle Gabriot. Elle est séduite par Gabrielle Gabriot.
Mais c'est la scène de séduction que vous allez entendre. C'est-à-dire après que Gabrielle Gabriot ait eu un accident, qu'il se soit retrouvé dans le ruisseau, qu'elle l'ait retiré du ruisseau, il s'est...
Et là, je veux juste dire quelque chose que j'ai compris par rapport à Eustache, dont je sais que Pagnol est un très très grand inspirateur, on peut dire ça ?
Oui.
C'est que Gabrielle Gabriot, vous l'avez dit, on l'a dit ensemble d'ailleurs, ressemble incroyablement à Piala. Et dans Mes petites amoureuses, Piala joue un personnage dans lequel il a une barbe très fourni, très noir, comme Gabrielle Gabriot, la première fois dans le film de Pagnol.
Bon, alors, on va se passer la scène. On va se passer la scène, et peut-être que là, vous pourriez intervenir. Je vous laisse votre micro.
Alors ça, c'est un plan d'eau. C'est un plan d'eau qui coule de fontaine. Je crois que c'est très important pour Pagnol d'entrecouper cette séquence où elle va rencontrer l'homme de sa vie par ce plan d'eau qui est bon, ce qui coule, qui passe, la vie qui continue. Oram de Mazy se lève, elle regarde si Fernandel dort. Évidemment, il dort. Ils se sont couchés, c'est extraordinaire, ils se sont couchés exactement à l'inverse de cette scène de Pierrot le Fou où Belmondo et Carina se couchent l'un vers l'autre. Eux, ils se couchent dos contre dos. Et puis elle avance vers Gabrielle Gabriot qui est allongée. Elle regarde lui aussi s'il dort, évidemment pas de la même manière.
Ça va mieux?
Oui. Qu'est-ce que j'ai fait?
Vous êtes tombé dans le ruisseau. Alors, j'ai pas pu dormir, j'ai eu peur.
Ah, merci, vous êtes bien brave.
Mais qu'est-ce que vous faisiez dans cet arbre?
voulais vous voir. Savoir qui vous étiez.
Vous êtes d'ici? Ou alors vous venez de loin? Ou d'ailleurs, comme nous?
Non, je suis du pays.
De celui où on est?
De là-haut.
De Bignol?
Sur la colline.
Oh, vous ne direz pas, il n'y a plus personne.
Oui, il y a moi.
Vous avez froid?
Non. C'est l'étoffe qui me tire ma chaleur. Je vais l'enlever. Hein? Je serai beaucoup mieux.
Mais vous n'avez même pas de chemise.
On n'a pas de femme. On n'a pas de chemise. Et puis vaut mieux ne pas en avoir que d'avoir du linge sale, n'est-ce pas?
Et alors comme ça, vous êtes dans ce grand village mort, tout seul?
Ah non, il y a Caroline.
Alors vous avez une femme?
Oh mais non, Caroline, c'est une chèvre. Elle est intelligente, vous savez qu'elle me comprend. Quand j'ai envie de lui parler, je lui parle.
Mais pourquoi vous restez là-haut tout seul, au lieu de descendre chez les hommes?
Je suis le dernier. Tant que je serai là-haut, ce sera un village. Dans les rues, des fois, je passe, je fais du bruit, je chante. Si je partais, ce serait plus un village. Ce serait des pierres mortes.
Oh, quand même! Que ce village meure, vous ne pouvez pas l'en empêcher.
Je sais. Je suis tout seul. Je ne peux rien. Il y avait une vieille qui est partie la semaine dernière. Elle me disait, il te faudrait une femme, et elle avait raison. S'il y avait une femme là-haut, avec des petits, il n'y aurait plus d'herbe dans les rues. Si vous vouliez.
Bien entendu, le son que vous venez d'entendre n'est pas du tout un son de radio. C'est un son avec un terrible souffle, mais c'est le son qu'on a sur un récepteur de télévision normal. Alors Caroline, vous venez de revoir, de réentendre cette scène?
Oui, Bon, je crois que c'est une des plus belles scènes d'amour de l'histoire du cinéma. Ça paraît idiot, effectivement, à chaque fois qu'on est bouleversé par quelque chose, de dire c'est un des plus beaux de l'histoire du cinéma. Mais vrai ou pas vrai, moi je trouve ça absolument bouleversant. C'est une scène qui est tournée dans un seul axe, c'est-à-dire que c'est simple, il y a trois grosseurs de plan, une grosseur sur
Oran de Mazis,
et puis un plan large, une grosseur de plan large. Le plan où elle le touchera, oui, je crois que c'est elle qui va le toucher, parce qu'elle lui dira « Oh, vous avez froid !» Enfin, elle lui a dit « Oh, vous avez froid !» Clac, on est de nouveau en plan large. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, cette façon qu'il a de surprendre, et au lieu de suivre en gros plan ou de rester en gros plan sur un geste, une main, quelque chose, il se recule. Il y a une espèce de force d'attention dans le cinéma de Pagnol et dans la façon dont il choisit d'être à distance des personnages quand des choses importantes se passent, qui est très très surprenante.
Et qu'est-ce que vous pensez du rapport entre l'apparente théâtralité, c'est-à-dire la façon dont le dialogue est très écrit? C'est pas un dialogue avec des hésitations, c'est pas du tout un dialogue réaliste. La frontalité, un seul axe, ça participe également d'une vision frontale des choses, qui est un peu celle du théâtre. Mais en même temps, le côté complètement concret, le torse nu de Gabriel Gabriot, qui est très visible, qui est très sensible et carrément sensuel quand il se découvre, puisque c'est une scène d'amour étrange où on voit l'homme, enfin, il ne se passe rien d'autre qu'un torse nu parce qu'il a froid et qu'il a enlevé sa veste. Rien d'autre. Mais, que pensez-vous de ce rapport entre les deux choses? Moi, c'est ce qui me fascine le plus tout au long de Regain. Il y a une certaine théâtralité, une façon que les personnages ont de se mettre en place, d'arriver vers nous. Enfin, on pourrait, avec le magnétoscope encore une fois, repérer 15 scènes de ce type. Une façon dont les personnages se mettent en place pour parler. Mais en même temps, ce qu'ils disent renvoie à du concret. Et leur façon d'être sur l'écran devient très cinématographique. Et qu'il y a un passage du cinématographique au théâtral et du théâtral au cinématographique qui est tout à fait étonnant. Parce que ça joue.
On touche à quelque chose de très très important chez Pagnol, je crois. Pour moi, l'idée de la théâtralité, c'est l'idée du don. C'est-à-dire qu'un comédien qui arrive sur scène, devant une centaine ou une dizaine ou même un seul spectateur, il a une façon, comme on dit, de se présenter, de se donner,
de se rendre présent.
De s'offrir.
De se rendre présent.
Oui. Mais au cinéma, effectivement, comme ce don, c'est le don à la machine, et d'une certaine manière, c'est le don au vampire, on n'a pas d'idée. Ça, c'est une idée de Douchet qui est une idée très belle. Il fait une opposition entre le cinéma languien et le cinéma de Murnau. Le cinéma languien serait un cinéma de la projection, et le cinéma de Murnau serait un cinéma du vampirisme, de l'aspiration, disons. Le vampirisme, c'est quand même trop connoté. Disons de l'aspiration, et de l'inspiration en même temps. Pagnol, il serait plutôt de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il capte, il est du côté de prendre ce qu'on lui donne, effectivement, de prendre ce que les comédiens lui donnent. Alors, quand vous dites théâtralité, oui, effectivement, les comédiens, ils sont là, ils ont une façon... Gabriel Gabriot, il a cette façon étrange de présenter son torse à la caméra, mais en même temps, le théâtre est tellement loin de là.
Il y a bien une innocence de Pagnol devant les moyens du cinéma, devant les comédiens, devant le texte, devant la nature et devant ce qui est en jeu dans le film, qui fait que il réussit totalement une scène comme celle-là. Bon, alors, on parle de Regain alors que le film a été diffusé à la télévision il y a plusieurs semaines. C'est un film de 1937. Et nous sommes au cinéma des cinéastes, donc chargés de parler un peu de l'actualité cinématographique. Heureusement, vous avez fait le lien tout à l'heure entre Regain et Eustache, ce qui me paraît évident. Mais en même temps, je veux dire qu'une scène comme celle-là, comme celle que nous venons de voir et que nous venons d'entendre seulement pour ce qui concerne cette émission...
Souvenez-vous du personnage de Lebrun, de Françoise Lebrun, dans La Maman et la Putain. Cette blondeur, ce côté lisse, ce côté, mais en même temps, ce côté putassier, profondément putassier, femelle de Lebrun. C'est incroyablement proche de Rane de Mazis. Et certaines scènes d'amour avec Léo sont incroyablement proches de ça aussi. C'est très, très, très étonnant la façon dont Eustache a compris Pagnol.
Oui, c'est ça. Alors, il se trouve que c'est Eustache qui a compris Pagnol, mais le paradoxe, c'est ça qui fait que le magnétoscope et le fait de pouvoir avoir des films comme ça chez nous nous change complètement par rapport au cinéma qu'on peut voir. C'est un cinéma qui est entièrement fondé sur une certaine innocence, moi je dirais aussi sur le sentiment, sur la façon dont il n'hésite pas à peindre des sentiments, à montrer leur naissance, à montrer leur évolution, à ne pas hésiter 100 fois, s'il le faut, à faire une scène d'amitié avec le paysan du voisinage, à faire une autre scène d'amitié avec le paysan du voisinage, à faire une troisième scène d'amitié avec le paysan du voisinage, à faire une scène de compassion avec le vieillard qui a dû quitter le village, à faire une autre scène de compassion quand le vieillard a les mains paralysées, à faire une troisième scène de compassion quand il lui amène son blé sur son lit de mort, pratiquement.
Oui, mais vous venez d'expliquer à la fois comme c'est pas tordu, mais à la fois comme il y a des perpendicularités incroyables, mais aussi en même temps un côté linéaire et quelque chose qui se suit et quelque chose qui vit, qui est absolument étonnant.
Oui, mais alors...
C'est effectivement Pagnol.
Oui, mais
on le comprend très bien dans la première scène du vieillard dans la grange, cette façon qu'il a de le suivre de dos, de le reprendre de face, de monter cut, d'être extrêmement vert. Pagnol a un raccord vert. Pas sec, pas jeune, vert, comme une branche verte. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Absolument, oui.
Il le prend de dos, l'autre vient de sortir avec l'enclume sur l'épaule, parce que le vieillard veut emmener son enclume à la ville, il ne veut pas se séparer de son enclume. Il le prend de dos, et claque, il le reprend de face, il le reprendra de dos quand il ouvrira la porte, et il le reprendra de face quand il fermera la porte.
Vous voyez à quel point on devient précis dès qu'on a cet instrument extraordinaire, quand même. Oui, non,
vous disiez tout à l'heure innocence. Je crois qu'il y a, je cite là quelque chose d'absurde, mais qui me vient de ma culture enfantine. C'est heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. Je crois que quelqu'un comme Pagnol, qui a une telle innocence face au cinéma, on n'a jamais atteint une formulation aussi divine cinématographique.
Oui, mais alors en même temps, bon, si nous parlons de Pagnol aujourd'hui, c'est pas du tout pour faire une émission sur Marcel Pagnol, mais c'est que le magnétoscope nous conduit à Pagnol, lequel nous conduit au cinéma d'aujourd'hui, et on se rend compte que ce qui nous manque actuellement, ce n'est pas le talent de Pagnol, ce n'est pas le génie de Pagnol, ce n'est pas un nouveau Provençal qui ferait parler les Provençaux, ou pourquoi pas un nouveau Pied Noir qui ferait parler les Pieds Noirs.
C'est une fausse idée de Pagnol, je veux dire, la Provence, s'il parlait de la Provence, c'est parce que c'était à lui, et on parle bien de ce qu'on a à soi. Je crois que Pagnol n'a rien de typique, absolument rien de typique.
Non, mais c'est quelqu'un qui est exemplaire pour nous.
Peut-être d'ailleurs, Claude, excusez-moi de vous couper, les moins typiques que Renoir, d'une certaine manière.
Probablement. Mais en tout cas, il incarne quelque chose de fondamental à mes yeux désormais, qui est l'équilibre des genres, donc l'équilibre des émotions. C'est-à-dire que ce qui manque le plus au cinéma d'aujourd'hui, c'est cet équilibre-là entre le rire et les larmes, entre donc le mélodrame et la comédie, entre la colère, parce qu'il y a aussi de la colère dans Regain, entre la colère, qui est même d'ailleurs exprimée d'une façon très, très contemporaine, le pain qu'on ne sait plus faire, c'était déjà en 37. Ces gens qui passent leur temps à palabrer alors qu'on est tellement mieux.
C'est pas un film où on palabre tellement.
Non, je parle pas de. Je parle du dialogue où Blavette dit qu'il va retourner à la campagne, qu'il va retourner dans le champ de son père. Et il a de très bonnes raisons. Il a de très bonnes raisons à ce moment-là. C'est-à-dire que, pour en revenir à mon idée principale, eh bien, cet équilibre qu'incarnait Pagnol entre des sentiments et entre des émotions, eh bien, plus personne aujourd'hui, en dehors de cinéastes relativement marginaux comme Eustache ou comme Piala, par exemple, ne l'incarne plus. C'est-à-dire que le cinéma d'aujourd'hui est, si, il y a quelque chose comme ça chez Woody Allen aux États-Unis ou chez Cassavetes. Mais on voit bien comment le cinéma que nous aimons, qu'il soit américain, Woody Allen, Cassavetes par exemple, ou français, Piala, Eustache, relève non pas d'un passéisme, enfin c'est pas du tout si nous avions Pagnol, puisque ce cinéma-là est vivant, mais il est vivant étrangement aujourd'hui dans les marges, alors que Pagnol, en son temps, n'était soutenu que par le très large public populaire. Voilà tout le paradoxe. Pagnol, en son temps, était insulté par tous les critiques théoriciens du cinéma qui disaient « ce n'est pas un cinéaste, ce n'est pas un cinéaste, il fait le plus grand mal au cinéma, c'était même « il fait le plus grand mal au cinéma ». Et il n'était soutenu que par l'apport massif de tickets d'argent enfin, dans les cinémas de France qui lui ont permis d'avoir ses studios, donc sa pleine liberté créatrice, et de faire monter son camion son jusque dans les collines de Regain. Enfin, imaginez ce que pouvait être un monumental camion son en 1937 dans ces collines et dans ces maisons qui avaient été construites par Marius Brouquier, qui était un ami d'enfance de Pagnol, et qui voulait les construire avec des fondations. Et Pagnol lui disait...
C'est-à-dire que le village est un village reconstruit.
Le village est reconstruit, c'est indiqué dans le générique.
Et c'est un décor fait sur place, quoi.
C'est un décor fait sur place, oui. Mais par Marius Brouquier, qui était maçon, qui était un maçon provençal, qui avait donc construit beaucoup de maisons, et qui disait à Marcel Pagnol, si tu fais des maisons, il faut leur faire des fondations. Et Pagnol explique, non, c'est pour le cinéma, on n'a pas besoin de fondations, après on ne s'en servira pas de tes maisons. Et Marius Brouquier en faisait quand même, parce que ça lui faisait mal au ventre, de faire des maisons sans fondations.
La dernière séquence du film, un plan très large. Elle sème le grain lui aussi, ils marchent l'un vers l'autre, ils se croisent. La caméra se rapproche, c'était sans doute une grue sur le visage de Ran de Mazis qui se retourne sur lui. Ils se sont croisés. C'est extraordinaire, je ne peux pas décrire le plan. Ça a été trop vite. Et là, ils marchent de nouveau dos à dos. L'inscription du paysage, de l'amour, des corps dans le paysage, des gestes que font les corps, c'est-à-dire le geste auguste du semeur, comme disait l'autre, c'est quelque chose d'époustouflant. La caméra se rapproche de nouveau, ils vont de nouveau se croiser, et elle tombe dans ses bras.
C'est rien, n'aie pas peur.
Comment c'est rien de tomber, d'être pâle comme ça, ou pas ? Qu'est-ce que tu te sens ?
Oh, mais c'est rien, hein, c'est pas de maladie, au contraire.
Rentrez. Tu veux voir un peu, toi? Je me dirais que t'étais pas si grosse. Hein?
Eh ben non. Ben tu le sais maintenant.
Sûr?
Oh oui, sûr. Il est bien vivant. Je viens de recevoir un coup de son pied, là.
Ah ben toi, tu as des idées, toi, tu sais. Tu as des idées. Ah ben ça, je le finirai tout seul tout à l'heure, hein?
Oh, tu sais, je peux t'aider. Ce que j'ai eu, c'était de plaisir et de surprise.
Non. Tu as ton travail, maintenant. Le blé, c'est ma graine à moi. Toi, occupe-toi de la pierre.
Viens, viens à la maison.
Il s'éloigne, c'est la fin. Je dis, y a rien de plus simple et en même temps.
Nous arrivons au bout de cette petite expérience. Bon, maladroite probablement, mais positive dans la mesure où ça nous contraint.
Je dois ressembler à Léon Zitrone quand je commente les prises. Enfin,
dans la mesure où ça nous contraint. Enfin, en tout cas, ça me contraint, moi, terriblement à la précision. C'est-à-dire que là encore, bon, je croyais connaître cette fin, et puis on n'y prête pas attention quand c'est la fin, on est ému. Mais la façon, brusquement, dont vous avez dit ça doit être un mouvement de grue, effectivement, dans un champ de blé, alors qu'il n'y a aucune présence possible d'une caméra...
C'est plus beau que le couronnement de Poppée, hein. C'est incroyable. Ils avancent l'un vers l'autre, ils sèment tous les deux dans le même champ. C'est plan large, champ large, comme on dirait, et c'est dans un champ.
De blé.
Ils avancent l'un vers l'autre. Et à ce moment-là, Pagnol voudra être, ce qui est assez rare d'ailleurs, parce que j'ai parlé tout à l'heure de l'éloignement, de cet incroyable sens de la distance qu'il a, à deux niveaux, un sens de la distance quand il raconte les histoires, mais un sens de la distance avec l'objet caméra. Il ne confronte pas directement des gestes trop violents à la caméra. Là, tout d'un coup, il va vouloir être au centre du moment où ils vont se croiser. Il y a ce mouvement de grue incroyable qui surprend le regard d'Orhan de Mazis sur lui, et effectivement, la caméra va tout d'un coup se retrouver au centre, entre les deux. Et puis, ils vont repartir chacun dans leur sens, et ils se retrouveront sur le rapport du travail et l'amour. Là, Godard peut parler autant qu'il veut, mais voir ces deux êtres qui s'aiment semer ensemble, s'éloigner, se rapprocher, c'est absolument extraordinaire.
On faisait Regain aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait le refaire avec cette innocence-là? C'est toute la question.
Je crois, oui, en parlant d'autre chose que de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, la France n'en est d'une certaine manière plus là. C'était avant la Deuxième Guerre mondiale. Bon, à une époque de reconstruction nationale où Pagnol, devait agiter quelque chose de l'ordre du sentiment national, qui était beau, qui existe encore, qui était celui aussi de la résistance. Un sentiment national politiquement juste. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est si juste que ça d'avoir un sentiment national. C'est pénible à dire, mais je crois que c'est comme ça. Donc effectivement, sur la question de la Terre, il a eu une chance énorme, c'est de pouvoir travailler là-dessus. Il a pu travailler la Terre, entre guillemets, avec le cinéma. Je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait le refaire comme ça, peut-être pas. Mais il y a certainement une façon de filmer identique.
Possible.
Possible, certainement.
Vous venez d'entendre Claude Jean-Philippe et Caroline Champetier dans un numéro du Cinéma des cinéastes consacré au film Regain de Marcel Pagnol. Première diffusion le 4 novembre 1979 sur France Culture.